Et l'invité du grand entretien est ce matin anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il publie aux éditions La Découverte, L'animal et la mort, sous-titre Chasse, modernité et crise du sauvage. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter, on me dit que vous êtes déjà très nombreux au standard. Charles Stepanov, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes spécialiste des peuples autochtones de Sibérie et de leurs traditions chamaniques, mais l'épidémie de Covid ayant rendu les déplacements impossibles, vous vous êtes retrouvé bloqué en France, replié à 120 km de Paris, aux confins du Perche, de la Beauce et des Yvelines. Vous en avez profité pour étudier la chasse et les chasseurs, et de cette enquête est issu un livre profond qui suscitera le débat, sans doute parce qu'il est nuancé. Mais je suis certain qui va susciter le débat. Vous réfléchissez au paradoxe de notre rapport à la violence, à la domination, au fait de tuer des animaux. Votre livre résonne dans l'actualité écologique au sens large et dans l'actualité politique. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, pourquoi la chasse et les chasseurs? Vous dites que la chasse est un point d'observation exceptionnel pour interroger nos rapports contradictoires au vivant en pleine crise écologique. Expliquez-nous.
Exactement. Alors moi, j'ai découvert la chasse pas en France, mais en Sibérie. Je travaillais sur les traditions chamaniques des peuples autochtones. Et puis, par la force des choses, j'ai été amené à faire des terrains d'enquête plus en France. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait comme rapport au sauvage qui se nouait dans la chasse, dans les différents types de chasse, puisque ce que j'ai découvert, c'est une forte complexité, une différenciation sociale extraordinaire dans les pratiques de la chasse et aussi chez les anti-chasses. Donc j'ai mené des enquêtes, des entretiens, de l'immersion chez ces différentes parties prenantes et pour comprendre quelle est pour eux la place de l'homme dans l'environnement, quel est le statut de la violence d'un point de vue comparé, sachant que d'un point de vue anthropologique, toutes les sociétés humaines produisent de la violence sur leur environnement. Ils abattent des arbres pour construire les maisons, ils tuent des animaux pour se nourrir, pour fabriquer les vêtements. Quel est le statut, chez nous, de la violence anthropique? Ce qui est frappant d'un point de vue comparatif, c'est que elle est démultipliée chez nous, la violence. Elle est industrialisée. En France, faut le rappeler, on tue 3,2 millions d'animaux par jour. On mange 4 fois plus de viande qu'en 1800. Il y a une industrialisation de la violence et en même temps son camouflage.
Ouais.
Il est possible de manger de la viande tous les jours en France, toute sa vie, sans avoir jamais tué un animal. C'est inconcevable dans les autres sociétés.
Alors, on va venir à ce point qui est effectivement fondamental. Mais partons d'une définition de la chasse. Je vous cite, un acte volontaire de confrontation de l'humain avec un animal sauvage capable de lui résister. Pour qu'il y ait chasse, il faut au moins en apparence que l'animal gibier ne soit pas sous le contrôle de l'homme, qu'il y ait une part d'imprévisible et d'insoumis dans son attitude. Bref, il faut que la chasse puisse échouer, infligeant à l'homme l'expérience aujourd'hui rare des limites de sa domination. À lire ces phrases, Charles Stepanov, on pourrait en déduire qu'il y a une forme d'égalité entre le chasseur et sa proie. C'est au minimum contre-intuitif et pour certains, j'en suis sûr, scandaleux. Que voulez-vous dire par là?
Alors, il faut se poser, quand on fait une étude comme ça, se poser la question, qu'est-ce que c'est l'objet sur lequel on travaille? Conceptuellement, qu'est-ce que ça signifie la chasse? La chasse, est-ce que c'est juste la mise à mort d'animaux? Non, par exemple, je citais le fait qu'il y a 3,2 millions d'animaux abattus en France chaque jour, ils sont pas abattus par des chasseurs. Ils sont abattus dans des abattoirs professionnels, avec conditions d'hygiène, etc., prévues. Pourquoi c'est pas de la chasse? Précisément parce que là, l'animal de bétail ne peut pas s'enfuir. C'est pas prévu. Les conditions sont pas faites pour qu'il puisse se défendre. Alors qu'au contraire, on va appliquer la notion de chasse à des situations où l'animal, il est dans son milieu à lui, il a ses techniques, il a son intelligence qui lui permet de faire face aux prédateurs humains. Et ça pose le problème des situations où on se demande, est-ce que c'est encore de la chasse? Et là, il y a des conflits localement, des gens qui vont dire, ben non, là, ce que vous faites, c'est plus de la chasse. Entre chasseurs, ils en débattent énormément, à cause de cette question de, est-ce que l'animal peut mettre en échec l'humain ou pas? Est-ce qu'il a ses chances ou pas?
Donc, Charles Stepanov, de cette définition, il faut exclure la chasse à la glu, la chasse en enclos, la chasse à cour?
Alors, paradoxalement, non, quand on va sur le terrain, justement, là, par exemple, la chasse à courre, c'est typiquement la chasse où l'animal a le plus de chances, puisque c'est une technique dans laquelle on lui donne les chances de déployer son intelligence. Par les Russes, c'est fondé là-dessus. Hein. La chasse à courre, ça apparaît au Moyen-Âge, quand les nobles disent « l'arc, c'est trop facile, on va employer des techniques plus dures qui sont fondées sur un affrontement dans lequel l'animal a ses chances de blesser les humains, ça arrive souvent avec les cerfs ou avec les sangliers ». Et ses chances de s'enfuir. Et statistiquement, en chasse à courre, 4 fois sur 5, les animaux s'en tirent. Je peux vous dire, j'ai suivi des équipages de chasse aux lièvres. De nombreuses fois, je les ai jamais vus attraper un lièvre. Mmh. Donc c'est ça qui était frappant. C'est des situations artificielles, c'est vrai, c'est une mise en scène où l'humain affronte un animal, un petit animal de rien du tout, un lièvre, qui est capable d'être plus intelligent et plus fort que lui.
Mmh. Qu'est-ce qui se joue dans la catégorie particulière de chasse, la chasse pour se nourrir, la chasse qui n'est pas une chasse de pur loisir?
Alors là, il y a la chasse paysanne, ce que j'appelle chasse terrestre, qui est fondée sur une éthique paysanne. Ça reste assez agricole la chasse, dans la mesure où les agriculteurs, c'est la catégorie socio-professionnelle, où proportionnellement, il y a le plus de chasseurs, 1 sur 4, alors que dans le reste des Français, c'est 1 sur 60. Donc il y a un lien qui demeure assez profond entre chasse de subsistance, chasser pour se nourrir, chasser du petit gibier, et cette éthique de chasse répétée souvent par mes interlocuteurs, qui étaient agriculteurs, ouvriers agricoles, forestiers, qui est, si on chasse, il faut manger. Et c'est complètement lié à la cuisine. Donc on ne peut pas envisager ce type de chasse paysanne indépendamment ensuite des réseaux de distribution de la viande, qui sont des réseaux de solidarité, d'échange de services, et qui là font tout à fait écho à ce que j'observais en Sibérie. Ça crée du lien social, la viande sauvage. C'est là que des communautés vont se réunir, il y a des banquets, il y a des réseaux de parenté qui s'entretiennent, des échanges de services. Et c'est lié à une éthique qui interdit l'excès et le gâchis. Mmh. On tue autant qu'on peut manger, mais pas plus. Et du coup, les paysans chasseurs vont dire, ben là, on se distingue du chasseur bourgeois ou noble qui tue juste pour tuer, qui tire pour tirer et qui ne sait même pas découper la viande ni préparer son pâté avec son sanglier.
Vous cherchez à penser ensemble la catastrophe écologique qui frappe la planète et le fait de chasser. Vous notez, vous l'avez déjà dit d'une certaine manière, que notre horreur à l'idée de tuer, de dépecer un animal pour le manger est en complète contradiction avec ce que nous infligeons par ailleurs sans pitié à la nature. Qu'est-ce qui se joue dans ce paradoxe ?
C'est un paradoxe profond, difficile à comprendre. Le fait que d'un côté, les sociétés modernes, dont la société française, ont inventé un type de rapport d'exploitation qui a jamais eu un aspect aussi destructeur dans l'histoire de l'humanité, avec une violence sur les animaux qui nie complètement leur existence comme être écologique, être intelligent dans l'élevage intensif, mais aussi bien la destruction des milieux écologiques entiers. Et d'un autre côté, jamais non plus les sociétés ont été aussi sensibles, aussi attentives, ont une telle intolérance à la vue du sang et de la violence. Donc collectivement, on a une force de destruction inégalée dans l'histoire de l'humanité, et individuellement, personne n'a jamais été aussi sensible que nous. Comment comprendre ce paradoxe ? Donc c'est l'objet de ce livre. Voir historiquement comment, ben, par exemple, dans l'élevage industriel, on a camouflé la mort, on a caché les abattoirs, ce qu'on appelait les tueries de rue dans Paris, à partir du 19e siècle. Dans
Surtout ne pas voir.
Voilà. Ne pas voir, détourner les yeux, jeter, c'est les formules des moralistes au 19e siècle. Il faut jeter un voile pudique sur ces scènes horribles par peur de contagion, par peur que le peuple, le petit peuple qu'il fallait civiliser, éduquer, ne devienne trop violent et ne se dresse contre les gouvernants. Donc, il y a un aspect politique de dressage des classes populaires dans l'évacuation de la violence dans des abattoirs qui permet leur industrialisation et de transformer du coup l'animal en marchandise.
Mmh. Est-ce que les chasseurs, puis on va entrer dans le vif des polémiques, est-ce que Charles Stepanov, les chasseurs ont quelque chose à nous apprendre sur la nature, sur le vivant, et si oui, quoi ?
Alors les chasseurs, justement, c'est quelque chose que j'ai compris sur mes enquêtes de terrain. Parler des chasseurs en général, c'est comme parler des musiciens en général, en mettant dedans la chanteuse de pop, le sonneur de cornemuse et le rappeur. Justement, on peut identifier une différence très nette entre une chasse hors sol, style safari, qui est fondée sur du tourisme en fait, et puis une chasse terrestre qui est fondée sur la connaissance, la pratique au quotidien, le travail de la terre chez les agriculteurs et les forestiers. Et l'identification, par exemple, ça m'a frappé, des gens qui connaissent chaque famille de perdrix ou de faisans sur leur territoire et qui voient d'un jour à l'autre, tiens, il manque un petit perdreau, il manque un petit faisan, c'est peut-être le busard qui les a pris. Donc une observation qui dépasse de très très loin le simple acte de chasse. Et dans ce cadre-là, ben, j'ai eu envie de mener une enquête sur la façon dont ces gens vivent la crise de la biodiversité.
Et
pour nous, disons pour les urbains, 80% des Français sont urbains, la crise de la biodiversité, c'est des statistiques effrayantes qu'on lit dans les journaux. Mais pour les ruraux et pour les gens qui sont en contact quotidien avec la faune sauvage, qui l'observent, c'est des liens qui disparaissent, c'est des présences visuelles, sonores, tout un paysage sonore, des oiseaux comme la perdrix qui étaient des emblèmes pour les gens qui faisaient l'intérêt même de la vie à la campagne, les hirondelles, un oiseau sacré pour beaucoup de gens qui me disent ben, on avait des nids d'hirondelles, ça apporte le bonheur, c'est un oiseau sacré qu'on ne tire jamais, ça correspond à des mythologies anciennes à travers toute l'Eurasie. Et ben maintenant le nid il est vide. Qu'est-ce qui se passe ?
Charles Stepanov, vous citez Brigitte Bardot qui écrit en 2019 « Je hais et méprise les chasseurs, ces sous-hommes d'une abjecte lâcheté, aux trognes d'ivrogne, ils portent en eux les gènes d'une barbarie cruelle héritée de nos ancêtres primitifs ». C'est un travail, fin de citation, c'est un travail de chercheur, vous citez, votre livre n'est vraiment pas sur cette ligne, loin de là, il n'est pas anti-chasseur, mais allons plus loin, peut-on dire que vous avez voulu, en l'observant, avec nuance, réhabiliter la chasse.
Pas réhabiliter, justement, parce que je montre que contrairement à ce que disent à la fois les institutions de la chasse et les anti-chasses, et les institutions politiques, assez souvent, il n'y a pas un monde unifié de la chasse. Et il n'y a pas de jugement éthique à avoir à porter ou politique sur la chasse en général, sur l'ensemble du territoire français, ça n'a aucun sens. Il y a très peu de rapports entre des gens qui vont faire des safaris, des gens qui font de la chasse en parc, les grands capitalistes français en Sologne, c'est basé sur une vision exclusive de la propriété privée avec un engrillagement. Et c'est exactement l'inverse du rapport à la terre de communautés rurales qui sont fondées sur le partage des terres et la mise en commun du gibier. Et dans ces coins-là, le gibier, c'est un des derniers communs. Il y avait le ramassage du bois, le ramassage des activités collectives, le gibier reste le dernier commun. Donc on a des rapports à la terre, aux vivants, complètement antagonistes.
On file au standard, je vous le disais, les questions sont très nombreuses. Bonjour Françoise, bienvenue.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, depuis l'an 2000, il y a eu 3325 accidents de chasse, dont 421 morts en 20 ans. Cette année, on en est déjà à 80 accidents et 7 morts. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour éviter tout ça ?
Merci Françoise pour cette question qui est revenue dans le débat public. Charles Stepanov, suite à nombreux et récents accidents de chasse, Yannick Jadot, le candidat écologiste à l'élection présidentielle, a proposé fin octobre d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. On va voir ce point-là sur la question des accidents de chasse. Que répondre à notre auditrice ?
Alors, c'est dramatique le fait qu'il y ait des accidents, mais bon, d'un point de vue de chercheur statisticien, ce qui est frappant, c'est la diminution du nombre de ces accidents. En 97, il y en avait 40, des accidents mortels en France. Aujourd'hui, il y en a deux ou trois fois moins. Actuellement, bon, c'est lié au fait qu'il y a de moins en moins de chasseurs, hein. Il y en a 1 million de moins qu'il y a 40 ans. C'est lié au fait qu'il y a de la formation, il y a eu une espèce de prise de contrôle de l'État sur les chasseurs. Dans les années 70, on met en place un examen. À partir de 2000, il y a une vérification du maniement des armes. C'est quelque chose dont il faut plutôt se féliciter, le fait qu'il y en a de moins en moins, même si ça reste dramatique. Et là, il y a la question, effectivement, des conflits d'usage, de partager l'accès à la nature entre les nouveaux modes comme le VTT, la promenade, et puis les...
Mais interdire la chasse le week-end et les vacances, pendant les vacances scolaires, une mesure de ce type, je disais, a suscité un torrent de réactions. François Hollande a dit que la chasse en semaine, c'était pour les riches. Marc Fesneau disait que c'était la coupée de sa nature populaire. Il a rappelé que le droit de chasser était un acquis de la Révolution française. Le débat a été vif et dense sur l'idée de limiter donc précisément les périodes de chasse à des moments où on ne peut pas... à des moments où il risque d'y avoir trop de monde dans les forêts en train de se promener week-end et vacances.
Ce qui manque dans ce débat, je crois, c'est de se fonder sur l'apport des sciences sociales, parce qu'il y a quand même depuis des décennies des enquêtes en sociologie, en ethnographie, sur les pratiques de chasse, les conflits d'usage, et malheureusement nos hommes politiques s'en servent très peu. Alors non, on est quand même payé pour ça. Ça sert à quoi d'avoir de la recherche si on n'est pas la production de la recherche en sciences sociales? Ce qu'on constate, c'est que il y a des différences énormes entre les territoires. Vous avez des territoires souvent autour des villes où vous avez une fréquentation des forêts extrêmement nombreuse. Il y a 100 millions de visiteurs des forêts domaniales en Île-de-France par an. Vous avez des jours avec 250 000 personnes en forêt de Fontainebleau. Là, évidemment, il faut réguler en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Il y a d'autres régions avec une désertification terrible, dans les Cévennes, des villages entiers abandonnés, des zones où le seul lien des communautés avec le paysage, avec la terre, c'est les moments de chasse. Et si on supprime ça, la possibilité pour eux, alors qu'il n'y a personne d'autre de le faire le week-end, on va supprimer le lien de ces communautés humaines avec la nature, avec la terre. Je ne pense pas que ce soit ça que désirent les écologistes, en réalité. Donc, il faut prendre en compte cette diversité des situations locales.
Catherine est au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Voilà, je suis Catherine à Gignac, donc dans les Bouches-du-Rhône.
Hein ? Oui.
Voilà, je vous pose vite une question. Enfin, ce n'est pas une question, c'est une réflexion quand j'ai entendu. Tout à l'heure, il disait qu'il y avait une chance pour les animaux de chasse à cours, de glu, etc., pour qu'ils aient une survie. Moi, j'ai envie de dire ironiquement, et là, qu'est-ce qui serait si on inversait le processus, si c'était ce cher monsieur hein, qui était dans cette situation, et est-ce qu'on peut appeler ça une chance? Voilà, tout simplement.
Et donc, les propos de notre invité vous ont choqué, c'est ça?
Ah, elle me choque. Et en plus de dire qu'il y a moins d'accidents, en plus, là, que je viens d'entendre, moins d'accidents de chasse, mais si c'est le pauvre monsieur qui est parti sur la route, là, hein, qui était sur le conducteur, et qui traversait, voilà, donc on peut pas accepter ça, c'est pas possible.
Allez,
voilà.
On entend votre colère et ce coup de gueule, Catherine. Charles Stepanov, vous voulez y réagir?
Je veux choquer personne, évidemment. Je répète, c'est absolument dramatique, même un seul accident. Mais il y a en France 20 000 accidents mortels par an. Donc voilà, il faut prendre en compte ces faits statistiques. Quant à la question de la mort de ces animaux, pourquoi est-ce qu'elle nous choque dans le cas de la chasse? Elle nous choque beaucoup moins dans le cas des abattoirs. Les Français sont à 80% hostiles à la chasse et à 95%, même plus, ils mangent de la viande. Donc ils acceptent de manger, par exemple, prenons la viande de porc. Le porc, en France, il a minimum un porc de 100 kilos, 1 mètre carré par individu. En bio, il a 1,3 mètre carré. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est pas beaucoup mieux. Par contre, un sanglier, il n'y a pas de limite. Donc en termes de bien-être animal, il est absolument évident que le bien-être maximal, il est pour les sangliers. Donc si on a envie de manger de la viande de suidé, sanglier ou porc, c'est la même espèce, ils ont exactement les mêmes besoins, la même intelligence. C'est des animaux extraordinairement intelligents et curieux, les porcs, et la façon dont on les élève en France est révoltante quand on connaît l'intelligence d'un suidé. Donc si on veut choisir une viande avec un mode de vie maximum de bien-être, il faudrait manger du sanglier. Mais on peut pas. Pourquoi? Parce que, dans le cas de la chasse, la mort est socialisée, elle est ritualisée, et ça ne correspond pas à la vision moderne de la chasse dans laquelle elle doit être cachée, ce qu'on disait tout à l'heure.
Rémi est au standard, bonjour.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Vous êtes chasseur, je crois.
Oui, c'est ça, j'ai 33 ans, je suis chasseur. Je voulais simplement pondérer les choses et faire remarquer qu'on parle beaucoup des chasses extrêmes, de la chasse à la glu, de la chasse à la chasse à cour, ce qui n'est une très très infime partie de la chasse en France, et qu'aujourd'hui, on vous fait un paradoxe entre l'écologie et le chasseur, c'est complètement en lien. On peut pas...
Vous sentez écolo, vous?
Ah mais à 300%, et même plus que ça. Parce qu'on connaît la nature, on la regarde tous les week-ends, et quand j'entends les gens qui me disent on a tué un animal ou quoi que ce soit, voilà, je fais tout de suite le lien avec l'autre débat, c'est le loup. Aujourd'hui, ce qu'il faut que les gens n'entend pas du tout, c'est que le loup, moi je suis dans le Vercors, il vide le Vercors de tous ses animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chevreuil dans le Vercors, quasiment plus. Et le chamois, il a disparu. Le mouflon, il est éteint parce qu'on a introduit le loup. Donc on parle de biodiversité. Il faut dire oui, moi le loup, je suis pour. Hein. Franchement, oui, je suis pour. Mais il faut le gérer. Et aujourd'hui, voilà. Après, je ne veux pas passer tout le temps là-dessus. Je veux simplement dire à tous les gens qui ne connaissent pas la chasse, de loin, on fait forcément peur. On a une arme sur les épaules. On fait peur. C'est ça, j'en tiens compte. Et il y a des accidents. Par contre, il faut venir nous voir, nous découvrir, on vous explique. Même se balader, moi je me promène avec des amis, ils ne savent pas reconnaître la différence avec une trace d'un cheval et une trace d'un sanglier.
Merci Rémi pour cette intervention. Charles Stepanov, prenez des notes. Que voulez-vous répondre à notre auditeur ?
Oui, alors il y a le thème des chasseurs premiers écologistes de France. Là encore, il faut nuancer. C'est l'affirmation de l'institution de la chasse. Les institutions de la chasse ont eu une politique catastrophique sur le plan de la gestion de la faune pendant de nombreuses décennies, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec la marchandisation d'animaux comme le sanglier qu'on a cherché à multiplier pour faire face à la diminution de la petite faune, des lièvres, des lapins, des perdrix. Et j'ai tout un chapitre sur l'histoire de la perdrix. Ce qui est frappant, c'est que face à des conditions de vie qui se dégradaient pour les perdrix, la diminution de leurs effectifs dès les années 50, le choix des institutions de la chasse, poussé par les pouvoirs publics, hein, c'est main dans la main avec l'INRA, le gouvernement, ça a été l'industrialisation de la production de gibier d'élevage, ce qui a eu des conséquences catastrophiques pour la perdrix avec une pollution génétique aujourd'hui.
Notre auditeur Rémi se disait chasseur et écolo. Comment avez-vous reçu les propos du président des chasseurs français il y a quelques jours, Willy Schraen? Tu penses qu'on est là pour réguler, on prend du plaisir dans l'acte de chasse. Moi, mon métier, c'est pas chasseur, j'en ai rien à foutre de réguler, a-t-il déclaré, réguler donc les populations via la chasse. Sur le ton et le fond, ces propos, vous les avez reçus comment ?
Moi, j'ai pas grand-chose à commenter. Mon enquête, elle porte sur les gens de terrain, les gens qui ont jamais la parole, qui sont assez peu représentés justement par l'institution. C'est paradoxal, oui, parce que l'institution de la chasse a mis en avant la régulation, une vision gestionnaire, rationalisée, et marchande, en fait, du gibier, à laquelle se sont opposés les chasseurs de la base pendant longtemps. Et c'est aussi à cause de cette tension entre la base et les institutions que 1 million de chasseurs ont abandonné cette pratique parce que ça n'avait plus de sens, cette chasse rationalisée et marchandisée.
Allez, une dernière question au standard. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci de prendre ma question. Voilà, j'habite en Ariège, dans les Pyrénées ariégeoises. Je suis accompagnateur en montagne et donc je suis sur un territoire de chasse. Et ma question est, quel plaisir peut avoir un chasseur à tuer un animal comme un cerf, une biche, un chevreuil, un tétra, même un lièvre? Et pour répondre aussi, enfin pour réagir sur l'auditeur précédent, je suis accompagnateur en montagne. Mon métier, c'est aussi de montrer quelle est la différence entre la trace d'un cheval et la trace d'un sanglier. Mais j'ai pas besoin d'un fusil pour ça.
Merci Dominique pour cette intervention et cette question vertigineuse. Quel est le plaisir qu'un chasseur éprouve quand il tue un animal, Charles Stepanov?
C'est une question qui se pose pour l'humanité en général. L'humanité, les humains, c'est le principal prédateur actuellement sur Terre. Dans toutes les sociétés humaines, il y a des pratiques de chasse, de la mise à mort des animaux. Et il y a une excitation, un plaisir dans la confrontation avec les animaux. Je crois qu'il y a en grande partie un plaisir qui est lié au fait de se projeter dans les mondes animaux, de rompre les frontières entre les espèces par la coopération avec le chien. Ça, c'est quelque chose d'universel dans les sociétés humaines. Il y a le plaisir de la traque, le plaisir de deviner les intentions d'un animal qu'on va pourchasser. Et quelquefois, mais pas toujours, le plaisir d'en être venu à bout.
Merci en tout cas d'avoir été là, Charles Stepanov. L'animal et la mort, chasse, modernité, crise du sauvage. De quelques auditeurs vous remercie. Belle approche qui nous sort du tout blanc, tout noir. Merci. Enfin, un regard juste sur nous, sur la chasse, nous dit un chasseur. Une fois plus, bravo France Inter. Mais enfin, c'est bravo Stepanov. Hein. Le livre est publié aux éditions La Découverte et vous serez lundi soir sur France Inter au micro de Laure Adler dans l'heure bleue. Merci encore. France Inter.